Alors dites-moi, je voulais faire le point, ça fait un petit moment qu'on se voit. J'aimerais bien savoir aujourd'hui votre douleur, à combien vous l'évaluez entre 0 et 10?
Ma douleur? Ça va.
Je vais reformuler. Par rapport au début, à combien de pourcents d'amélioration vous vous situeriez aujourd'hui?
L'amélioration, ça va.
Est-ce que vous diriez que depuis qu'on travaille ensemble, vous avez vu des modifications dans votre capacité à travailler, à exercer votre activité professionnelle, et à quelle hauteur de modification vous diriez?
Le boulot, c'est vrai. Ouais. Moi, ça va.
Bon, ok, je note.
Bonjour.
Ou bonsoir.
Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Aujourd'hui, sur Le Temps d'un Lapin, nous revenons sur un article qui explore ce que ça signifie de devenir douloureux chronique pour les patients à travers leurs ressentis et les divers chemins plus ou moins tortueux qu'ils vont devoir emprunter pour aller mieux. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors Vincent, aujourd'hui, l'article, c'est une proposition de ta part. Tu l'as découvert récemment et tu as tenu à nous en partager un petit peu le contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux article?
Alors cet article, il s'appelle Healing Journey with Chronic Pain, a Meta-Ethnography Synthesizing 195 Qualitative Studies.
Ce qu'on pourrait traduire par une synthèse méta-ethnographique de 195 études qualitatives sur le voyage vers l'amélioration avec une douleur chronique. Et on vous expliquera peut-être plus tard pourquoi on choisit de traduire healing par amélioration et pas par guérison.
Donc c'est un article qui a été publié par Francine Troy, qui a un doctorat en médecine au département d'orthopédie, de rhumatologie et de sciences musculo-squelettiques à l'université d'Oxford.
C'est un article qui a été publié très récemment, c'est ça?
Il est sorti le 5 mars de cette année dans le journal Pain Medicine.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet article?
Ce qui m'a intéressé dans cet article, déjà, c'est sa forme, mais on va y revenir plus tard. Et puis aussi, on a beaucoup d'études qui se sont intéressées, qui ont exploré ce que ça signifiait que vivre avec une douleur chronique. Mais on n'en a pas beaucoup où on voit quels sont les outils, qu'est-ce que ça signifie de récupérer, de se remettre, ne serait-ce que partiellement, de cette problématique de douleur chronique. Et donc pour cette étude, ils sont allés chercher dans la littérature qualitative existante toutes les infos qui étaient relatives aux personnes qui avaient réussi à trouver un équilibre malgré leur douleur chronique.
Ce qui correspond un petit peu à ton activité professionnelle actuelle.
Voilà, je cherchais aussi quelques outils pour mon exercice professionnel. Ce qui m'a aussi interpellé par rapport à cet article, c'est la méthodologie. Il s'agit d'une analyse méta-ethnographique. Vu comme ça, on a l'impression que c'est un terme un petit peu barbare. Mais en fait, dans les études quantitatives, donc celles où on va mesurer une progression, mesurer des scores, on peut faire ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on va prendre les données des patients utilisées pour refaire tourner la machine statistique et obtenir une conclusion qui s'appuie sur une solidité statistique plus importante. Eh bien, le principe de la méta-ethnographie, c'est une synthèse d'études qualitatives et on va aller refaire une étude qualitative sur toutes les données présentes. Dans le cas présent, ils ont extrait 195 études dans lesquelles ils ont pu réunir les données de 3000 patients, ce qui est quand même assez impressionnant quoi, pour celles et ceux qui ont pu lire des études qualitatives. Déjà, quand on arrive à extraire les données d'une dizaine de personnes, c'est un travail colossal. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut représenter de réussir à réunir les informations, les ressentis, les discours de 3000 personnes. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et on vous mettra en description du podcast un lien vers un site qui donne des conseils pour bien réaliser sa méta-ethnographie pour ceux qui seraient un petit peu masochistes et qui auraient envie de se lancer dans ce genre d'aventure.
Tu disais que cette étude a de particulier, c'est qu'elle s'intéresse aux représentations des patients et à leur perception, leur ressenti quant à devenir douloureux chronique, être douloureux chronique, les nuances entre les deux et ce que ça implique pour eux, c'est ça?
Tout à fait. dans un premier temps, ils ont redonné un peu ce que ça signifiait pour les patients être douloureux chroniques, quels étaient les sentiments qui émergeaient. Et donc, ils ont fait la synthèse de tout ce qui pouvait émerger des 195 études. Il y a des notions qui ressortent, hein, le fait que la douleur des patients est invalidée, notamment lorsqu'il y a une absence de cause biologique ou anatomique à leur douleur, leur difficulté de relation avec les professionnels de santé dans ce type de situation, l'impact que ça a sur leur identité propre, le fait que, en raison de l'absence de signes radiologiques à leur douleur, eh bien, ils peuvent passer pour des gens qui sont peut-être des menteurs, ou au niveau du travail, quand on a une douleur chronique, eh bien, on peut avoir des relations un peu compliquées avec ses collègues, parce qu'on va moins faire les choses du fait de ces douleurs, et ça peut passer non pas par un problème de douleur, mais plus par le fait qu'on est un fumiste, une personne feignante, tout ce genre de choses. Il y a des notions qui sont assez importantes sur le ressenti que les gens ont d'eux-mêmes, le fait qu'il y a un avant et un après l'arrivée de la douleur chronique. Un thème qui ressort, c'est « je me sens déchiré de moi-même, j'ai été arraché au monde auquel j'appartenais ». Comme on voit l'impact majeur que peut avoir cette douleur chronique et la recherche aussi de reconnaissance de cette pathologie qui est assez commune, je pense, à toutes les personnes qui subissent un handicap.
Tu veux dire que du coup, il y a quelque chose qui remonte de l'ordre de « c'est extrêmement envahissant pour les patients et en même temps, ils ne sont pas entendus », c'est ça ?
Exactement, ils ont du mal à se faire entendre. Il y a un exemple qui est donné et qui, moi, m'a beaucoup parlé. J'ai une patiente qui m'a expliqué exactement la même chose. Un des patients qui explique qu'il attendait énormément de la consultation du grand spécialiste qui aurait peut-être pu lui donner un espoir de guérison. En fait, au cours de la consultation avec ce grand spécialiste, la seule chose qu'a fait cette personne, sur une consultation très courte, c'est la juger, lui dire qu'il fallait qu'elle se remette au travail et qu'il fallait qu'elle aille au-delà de sa douleur. Et des exemples comme ça, malheureusement, on en a quand même quelques-uns.
Ce qui est absolument déjà un non-sens scientifique, ce qui est effectivement jugeant, stigmatisant potentiellement, et qui n'apporte rien, finalement. Si je comprends bien ce que fait cette méta-ethnographie, c'est qu'elle elle condense en fait les retours de plusieurs études qualitatives pour nous donner une idée de ce qui revient en général. Exactement. Et du coup, ça veut dire que ce qui revient en général sur 195 études qui s'intéressent au vécu des patients douloureux chroniques, c'est que la plupart d'entre eux expérimentent un vécu douloureux qui va entacher leur identité propre. Je ne suis plus moi-même, je suis déchirée de moi-même, et à côté, on ne m'entend pas, c'est ça ?
Exactement, on peut même donner un volume, puisque cette notion d'être déchiré de soi-même et de son monde sont traitées respectivement dans 101 études et dans 119 études.
D'accord.
Par contre, la question de la douleur qui est invalidée ou de la personne qui est invalidée, c'est traité dans 54 et dans 97 études.
Et on a une idée des proportions dans lesquelles ces pensées reviennent ?
Pour que ça ressorte comme ça dans une étude qualitative,
oui.
Il faut vraiment que ce soit un thème qui soit récurrent dans les entretiens.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils ont relevé que dans une majorité d'entretiens, ce qui revenait souvent, c'est cette notion d'être invalidé, c'est cette notion de méconnaissance du monde médical par rapport à cette problématique de la douleur chronique.
Cette méconnaissance qui viendrait de l'attachement à des signes radiologiques, du coup ?
Entre autres, oui.
Ouais.
Les patients qui ne réagissent pas au traitement qui leur est proposé, hein, typiquement le patient qui vient pour une lombalgie chronique à qui on donne des anti-inflammatoires et ça marche pas, on lui donne des antidépresseurs et ça marche pas, on lui donne des neuroleptiques et ça marche pas, ce que je peux voir en pratique quotidienne. Hein. Voilà, on tâtonne, au bout d'un moment on arrive au bout de l'arsenal thérapeutique médical et comme le patient ne réagit pas, eh bien on est dans une espèce de flottement diagnostique où ben, on lui a mis une étiquette dessus, mais il ne répond pas, alors que normalement, les patients qui ont cette étiquette doivent répondre à ce traitement.
Mais peut-être qu'il ne répond pas parce qu'on l'a abordé uniquement dans un modèle biomédical et qu'on a voulu traiter d'abord la lésion avec l'anti-inflammatoire, la douleur avec l'antidépresseur, éventuellement en prenant en compte le stress avec l'antidépresseur, mais peut-être que la personne n'a pas été considérée dans son ensemble. À ce moment-là, c'est un peu l'un des reproches qu'on peut faire au modèle biomédical, c'est que du coup, une lésion, une solution, une anomalie, une solution ont été épuisées, ben en fait, on va être tenté de remettre la faute sur le dos du patient en expliquant que c'est lui qui n'a pas eu le comportement qu'il fallait, qu'il est un patient difficile ou qu'il est un patient peu investi ou que chez lui ça ne marche pas alors que ça marche chez tout le monde. Peut-être qu'à ce moment-là, ces gens étaient déjà dans une situation où ils ne se sentaient pas entendus.
Exactement, et puis avec le médecin, le kiné, le professionnel de santé qui a essayé de guérir le patient du fait que c'était un homme de 55 ans et pas de prendre en compte tout l'environnement qu'il y avait autour.
Mais d'ailleurs, Vincent, tu viens de parler de guérir. On a dit en introduction qu'on avait choisi de traduire le terme healing par aller mieux plutôt que guérir. Est-ce que tu peux préciser pour ceux qui nous écoutent pourquoi on a fait ce choix-là et en quoi dans cette étude et en quoi c'est cohérent avec ce qu'on peut lire dans cette étude ?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu parler de guérison ? Et ça veut dire qu'on s'enfermerait dans un modèle biomédical dans lequel une lésion est forcément associée à une douleur, une problématique, et que du coup, le traitement qui vise à réduire ou à supprimer cette lésion aurait pour conséquence obligatoire d'enlever la douleur ou la problématique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et on le voit très bien dans la douleur chronique avec des patients qui vont avoir, par exemple, une hernie discale qui va être symptomatique et pertinente à un moment et qui vont continuer à présenter les mêmes douleurs alors que la hernie s'est résorbée ou alors qu'on les a opérées de cette hernie et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de raison anatomique d'avoir les douleurs qu'ils présentent encore.
Et du coup, on a préféré aller mieux. Ça va avec des choses qu'on a pu dire, par exemple, dans la question de la prise en charge de la douleur persistante avec Mike Stewart, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus global, où on ne considère pas seulement la douleur, mais on considère la vie de la personne, et où on peut imaginer aller mieux avec une douleur qui n'évolue pas, et on peut imaginer ne pas aller mieux avec une douleur qui change.
Et je pense qu'il est aussi important de dire que dans la douleur chronique, aujourd'hui, on est incapable de donner une solution qui enlèvera complètement la douleur. C'est-à-dire que le professionnel de santé ou le professionnel qui orbite autour de la santé, qui promettrait à un patient qui présente ce type d'affection, qui lui dit « moi je vais vous enlever toutes vos douleurs », c'est un menteur. C'est quelque chose qui doit vous interpeller en tant que patient, en tant que professionnel. La personne qui arrive en disant « j'ai une solution, ça marche pour tout, vous allez voir », c'est un gourou, c'est un escroc.
Mais ne serait-ce que le fait de dire « moi, je vais enlever votre douleur », puisque aujourd'hui, des douleurs qui sont installées depuis longtemps, en tout cas au-delà du temps de guérison connue des éventuelles lésions qu'on aurait retrouvées, c'est des gens chez qui la solution ne viendra pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. La solution antalgique à court terme, elle pourra venir des professionnels qui vont encadrer la personne, que ce soit un traitement médicamenteux, que ce soit, attention, je vais dire un truc terrible, un massage qui peut permettre de diminuer la douleur à court terme. Mais en fait, le fait que le niveau douloureux global diminue, ça va plutôt être lié à une meilleure compréhension de la douleur et un retour vers des activités physiques, des activités de loisirs et des activités professionnelles qui vont améliorer le niveau douloureux plutôt que d'enfoncer la personne. Et ça, en l'occurrence, c'est vraiment une solution qu'on va construire avec la personne et pas qu'on va lui apporter en disant « c'est moi qui vais résoudre votre douleur ». Moi, en tant que kiné aujourd'hui, ces patients-là, je peux les accompagner, je peux faire un bout de chemin avec eux pour peut-être les orienter à trouver ces ressources, mais clairement, c'est eux qui vont les employer, ces ressources, et c'est eux qui vont avancer.
Ces termes que tu abordes, en fait, ils sont bien mis en valeur par l'étude, puisqu'il y a d'un côté ce que ça signifie devenir un patient présentant des douleurs chroniques. Il y a l'exact opposé en face qui ont réussi à trouver un équilibre malgré leur douleur chronique. C'est-à-dire que, par exemple, les patients qui se disaient arrachés à leur monde ont pu, grâce à une intervention, grâce à des événements, se reconnecter avec leur monde. Ceux qui se sentaient arrachés de ce qu'ils étaient ont réussi à se reconnecter avec eux-mêmes. En fait, chaque thème a son opposé, à sa réponse. Du côté du chemin de la guérison, les patients chez qui la douleur avait été invalidée parce que il n'y a pas d'imagerie concordante ou bien votre douleur elle est beaucoup plus importante que ce qu'elle devrait être avec votre imagerie, bien il y a le répondant du côté du chemin de la guérison où il est mis que la douleur a été validée, j'ai une explication qui est rationnelle. Pour ma douleur, on m'a expliqué le pourquoi, on leur a délivré une explication qui est plausible et acceptable sur leur douleur et ça leur permet de comprendre et de gagner un peu de contrôle sur leur douleur. Donc chacun de ces éléments se répond du côté de subir la douleur chronique et en face, malgré la douleur chronique, pouvoir faire des choses.
Tu veux dire qu'il y a deux grands pans dans cet article, c'est l'analyse de qu'est-ce que c'est que de devenir douloureux et qu'est-ce que j'ai vécu dans le parcours où j'ai commencé à aller mieux, c'est ça hein?
Exactement.
D'accord. Et que dans devenir douloureux par opposition à être douloureux, la question c'est qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce changement d'état? Et à ce moment-là, j'ai ressenti la rupture avec avant, l'absence de légitimisation, etc.
Exactement. En fait, ce
D'accord.
qui ressort beaucoup, c'est pas tant le patient qui va s'inquiéter par rapport à sa lésion, mais
Ouais.
vraiment, c'est l'impact que ça a eu sur sa vie. Et c'est plus à ça que les patients voudraient que les professionnels de santé s'intéressent que leur lésion anatomique.
D'accord. C'est pas parce qu'on leur a pas demandé, c'est qu'en fait, quand on leur demande ce qui est compliqué dans ce parcours, eux vont dire que c'est qu'on s'intéresse pas forcément à ce que ça représente pour eux, qu'on n'entend pas l'envahissement que la douleur peut avoir, finalement plus que ce que j'aurais pu moi imaginer, où j'ai toujours l'impression, c'est probablement un biais, que les gens veulent, sont inquiets pour une lésion.
C'est souvent un truc qui ressort dans des discussions que je peux avoir avec des collègues quand on se fait des transmissions où je demande bah, qu'est-ce qu'il a le patient? Et la collègue me dit bah, il a une hernie L5-S1. Je dis mais oui, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème? Et on voit qu'on est dans deux visions différentes avec qu'est-ce qu'on voit à l'imagerie, mais quel est l'impact sur le patient, sur sa fonction, sur sa vie?
C'est quelque chose qui, moi, m'avait heurté les premières fois que j'ai reçu des stagiaires. Dans le sens où, quand je laissais un stagiaire faire un bilan, à la sortie du bilan, j'avais quelque chose de propre, de très cadré, de très bien fait, une mesure d'amplitude articulaire, etc. Et un jour, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est « mais je vois pas où est la personne là-dedans ». Parce qu'en fait, moi, une amplitude de flexion, je sais pas, 140, 150, ça me dit pas si la personne, elle peut se laver les cheveux, si elle peut se maquiller, si elle peut attraper quelque chose dans le placard en hauteur. Et finalement, c'était le switch qui s'est opéré petit à petit en travaillant, c'était de dire, comme tu dis, une hernie L5-S1, ça n'est pas une personne, c'est une situation, c'est un endroit, c'est un étage, mais ça ne décrit en aucun cas ce que vit la personne. On peut, d'une même dysfonction, en fonction du moment, en fonction de l'heure, en fonction de la période de la vie, on peut avoir un envahissement qui est complètement différent.
Exactement. Et tous ces éléments, en fait, ça permet de créer une relation thérapeutique qui est forte entre le patient et le professionnel. Et aussi, ça permet d'avoir quelque chose de cohérent, de concret, de fixer des objectifs qui soient réellement adaptés. Avoir des mesures d'amplitude, des périmètres, ça ne crée pas de l'empathie. Ça ne montre pas au patient qu'on s'intéresse à son problème, c'est juste que voilà, on a pris les mesures. Par contre, l'impact de la pathologie, de la douleur sur la vie, sur des activités, parfois toutes bêtes.
Toi aussi, tu penses à cette vidéo du monsieur qui s'entraîne. Moi, je ne vais pas dire la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ce monsieur qui porte des poids de plus en plus lourds pour pouvoir prendre sa petite fille dans les bras.
Ça fait partie des premières questions que je pose aux personnes qui ont dépassé un certain âge. Je leur demande s'ils ont des petits-enfants et ce qu'ils font avec.
Moi, je demande si les gens ont un chien maintenant.
Oui, c'est...
Les enfants, comme toi, mais aussi, est-ce que vous avez un chien que vous avez besoin de promener et pour lequel, du coup, vous avez besoin de passer du temps dehors, de marcher? Est-ce que c'est un chien qui tire? Est-ce que c'est un chien qui fait 1 kg? Un chien qui en fait 25? Parce que je ne vais pas forcément l'utiliser de la même manière.
Il y a aussi la notion de communauté, c'est-à-dire que lorsque les patients arrivent à échanger entre eux au sujet de leurs problématiques, ils arrivent à trouver du soutien qu'ils n'ont pas forcément auprès de leur famille. Ça leur permet aussi de trouver une place dans la société. Ils arrivent aussi à trouver de l'humanité dans le système de santé, puisque ça existe, la prise en charge de la douleur chronique. Malheureusement, peut-être un peu trop tard. On manque beaucoup de prévention et d'éducation sur ce qui peut mener à la douleur chronique et l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. Souvent, il y a une espèce d'errance jusqu'au moment où ils arrivent à trouver un endroit où ils vont avoir une écoute qui leur permettra déjà d'expliquer ce qui leur arrive et puis de trouver des clés pour arriver malgré tout à faire quelque chose.
Oui, parce que ce qu'on a pu dire dans l'épisode sur la fibromyalgie, c'est qu'une douleur peut être chronique dès les premiers mots, des premières minutes, dès la première consultation ou même avant, en fonction des croyances qui vont implanter des comportements comportements qui vont entraîner une chronicisation indépendamment hein, de la faute du patient, il n'y a pas d'histoire de culpabilité. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, moi je trouve ça dommage qu'il y ait cette espèce de course à la lésion, c'est-à-dire il y a un temps qui est assez long, on va chercher de la lésion et quel traitement sur quelle lésion va amener une solution, et puis finalement c'est très très tard qu'on va arriver vers un questionnement global, bon bah là il y a de la douleur depuis longtemps, est-ce qu'on peut changer quelque chose sur le sommeil, est-ce qu'on peut changer quelque chose sur les loisirs, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent et que vous aimeriez refaire. Moi je demande souvent, est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez faire et que vous pensez ne plus pouvoir.
Exactement, ouais, c'est bien ce que tu dis, il y a une escalade d'imagerie, il y a une escalade de traitement, voire même très souvent c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une débauche d'imagerie et de traitement qui sont donnés dès le début, pour au final, quand tu vois les recommandations sur la lombalgie, on revient un petit peu toujours à ça, celles de 2019 qui disent que chez le patient lombalgie chronique, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire des imageries et d'essayer de supprimer assez rapidement, mais de manière tolérable, les médicaments qui sont superflus.
Est-ce qu'on peut parler d'un médicament superflu si ça soulage la douleur?
Et est-ce qu'on est sûr que le médicament qui est donné soulage la douleur? Moi, j'ai plein de patients qui sont sous neuroleptiques ou qui sont sous opioïdes, qui arrivent au sein de l'établissement, on leur enlève ces médicaments-là et ils disent bah, « finalement, ça va pas moins bien ». Et en même temps, j'ai plus les effets secondaires du médicament. Donc là, déjà, on a probablement un médicament qui a été soit donné trop longtemps, soit qui n'a pas été donné par rapport aux bonnes indications.
Oui, moi, ce que je regrette pas mal dans ces situations-là, c'est que le médicament est souvent donné sans forcément de précision d'utilité. On a des gens qui prennent des médicaments pour ne pas avoir mal ou pas trop et qui subissent des effets secondaires, mais à aucun moment, il y a un échange sur bah, est-ce qu'on fait la balance bénéfice-risque de la douleur que vous avez avec ce médicament et des effets secondaires, de la douleur que vous avez sans ce médicament, et surtout de pourquoi on le prend. Parce que ce que je trouverais intéressant, comme on en parlait avec Florian Bailly, c'est plutôt de dire bah, là, on va essayer ce traitement-là qui va peut-être vous permettre d'avoir moins mal pour que vous puissiez faire plus de choses, pour que quand on enlève ce traitement, vous soyez déjà physiquement un petit peu reconditionné. Ça me semble pas aberrant dans l'idée d'accompagner les gens à avoir une prise de décision, une prise de traitement qui soit partagée en fait, de dire ben voilà, là je prends ce médicament, c'est pas juste pour ne pas avoir mal, c'est pour me permettre de faire ceci. Et peut-être que l'effet nocebo ou les éventuelles craintes liées au médicament seraient moins fortes si on expliquait aux gens, ben en fait, je vous le donne pas parce que j'ai pas d'autre solution et que je veux juste vous casser pour que vous ayez pas trop mal. Je vous le donne parce que j'ai entendu que vous ne pouviez pas faire des choses qui étaient importantes pour vous et je me dis qu'avec, vous pourriez faire ces choses-là. Et que petit à petit, une fois que vous les aurez refaites, on pourra peut-être diminuer.
C'est très pertinent, c'est clairement dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est ce qui semble émerger de la littérature scientifique aujourd'hui. La loi Kouchner sur la santé parlait déjà du consentement éclairé du patient, qui est l'étape d'avant de la décision partagée, mais on voit que déjà aujourd'hui, le consentement éclairé du patient, pour caricaturer, ça se résume à donner un formulaire au patient expliquant les éventuels effets secondaires et le faire signer à la fin. C'est un début, on informe déjà, après il y a s'assurer que la compréhension est bonne et puis expliquer au patient pourquoi est-ce qu'on fait cette intervention, pourquoi est-ce qu'on donne ce médicament. Voilà, bon là on est en train un petit peu de digresser comme d'habitude, mais c'est effectivement une notion qui était importante à mettre en évidence. Et donc au final, avec tout ça, il nous reste deux points qui sont importants et qui ressortent de cette étude. La première, c'est que j'ai toujours un petit peu de difficulté à traduire ce terme, c'est « I am empowered ». On aurait tendance à le dire « on me donne le pouvoir, on me donne le contrôle ». Je suis mis en capacité, je suis rendu compétent.
Il y a un passif qui me pose problème, je dirais « je reprends le contrôle, je reprends les clés, moi ». Je réinvestis le pouvoir que je suis censée avoir sur moi-même et dont je me suis privée ou dont on m'a privée sans que je m'en rende vraiment compte. Et c'est vraiment un problème pour moi dans la santé. Il y a beaucoup de patients qui attendent de nous qu'on trouve des solutions pour eux, parce que je pense que pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne, alors qu'on aurait dû, jamais dû dériver vers ça.
C'est vraiment ce qui ressort de l'étude, notamment la relation avec les professionnels de santé. On passe d'une relation qui est descendante à une relation très horizontale avec le professionnel de santé qui n'est plus, qui devient un partenaire avec une notion de respect, de décision partagée qui s'instaure, et ce qui permet la restauration de la confiance à la fois dans le système de santé, mais aussi la confiance en soi et de l'estime de soi, ce qui permet à la personne d'être restaurée en tant que personne elle-même. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. La lecture de ce genre de truc, moi, ça, c'est toujours un petit peu émouvant, quand même. Parce
Oui.
qu'on se replonge dans des consultations qu'on a pu avoir et des moments où on sent qu'il y a une extrême tristesse qui peut être évoquée par les patients.
C'est plutôt récent chez moi comme changement, mais pour moi, c'est vraiment l'objectif premier. Et je crois que c'est les plus beaux moments, et c'est pour moi les moments les plus privilégiés dans ce métier. D'avoir accès à ça, c'est hyper précieux. Je vois les gens reprendre un petit peu de contrôle sur la situation. Et je vois les gens passer d'une situation où ils subissent tout à une situation où, ok, bah là, en fait, c'est dur, mais j'ai fait ça, et j'ai réussi à faire ça, et j'ai voulu faire ci. Et ok, là j'ai mal, mais j'ai mal parce que j'ai eu ce plaisir-là à ce moment-là. Et je trouve ça tellement puissant, juste de dire j'ai pu refaire ça. Pour moi, c'est fondamental et je pense qu'on mériterait en parler beaucoup, beaucoup plus dans les formations initiales, les formations continues et dans les médias. Et du coup, est-ce qu'il mettait en lien le fait que cet empowerment, est-ce que c'est ça la condition pour commencer à aller mieux?
Ouais, c'est la condition parce que du coup, ça permet de fixer un diagnostic qui n'est plus patho-anatomique, mais qui est basé sur le problème. Qu'est-ce qui se passe quand je fais de l'activité? Comment ça réagit? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que ça réagisse différemment? Ça permet aux gens de développer des stratégies pour faire des choses, mais peut-être faire ces choses différemment ou bien trouver des manières de continuer à faire ce qu'ils aimaient, apprendre à gérer eux-mêmes la douleur. On ne peut pas apprendre à gérer soi-même sa douleur quand on ne comprend pas sa douleur déjà. Quand on est submergé par cette douleur et puis tous les sentiments qui vont avec, l'inquiétude, la crainte, le sentiment de culpabilité de la part des patients qui vivent dans la douleur chronique, on ne peut pas apprendre à gérer si déjà on ne comprend pas ce qui se passe. Une notion que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de boîte à outils. Les patients qui ont pu trouver cet équilibre, ce qui semble ressortir, c'est qu'ils ont réussi, avec les soignants qui les entourent, à développer une boîte à outils qui leur permet non plus de réagir à leur douleur, mais plutôt de l'anticiper et de faire en sorte d'éviter qu'elle ne devienne insurmontable ou de savoir ce qu'il faut faire quand ils ont les signes précurseurs de l'arrivée de celle-ci.
Et pour ça, finalement, c'est indispensable d'aller au-delà de la question de la lésion, puisque si tu penses que tu as mal parce que tu as un disque abîmé qui est en train de s'écraser, au moment où tu ressens la douleur, tu ne vas pas pouvoir engager d'activité de loisir, puisque tu risques d'imaginer que ça va aggraver ta situation.
Eh
Et
oui.
que moi, pour l'avoir fait, j'ai quelques patients en ce moment que je vois pour ce type d'accompagnement, où en fait, on est tout à fait d'accord. On sait qu'en ce moment, ça n'ira pas mieux parce qu'il y a ça, ça, ça et ça qui sont tellement lourds que bah, ça crée pas un terrain favorable. Mais par contre, on a ça et ça comme outils de court terme qui peuvent permettre de faire que cette période soit moins difficile et que eux peuvent aussi, de leur côté, avoir ce type de traitement, mais se traiter eux-mêmes finalement.
Et alors tout ça permet à ces patients de finir dans la dernière catégorie. C'est cette catégorie où la notion, c'est d'avoir un futur, d'avoir un avenir. Ça leur permet d'avoir des perspectives, de se dire, bah voilà, il y a cette douleur, elle fait partie de ma vie, et du coup, avec ça, je vais pouvoir établir des plans sur le futur, développer une nouvelle façon de voir le monde, avec aussi de l'optimisme. Parce qu'ils se rendent compte d'où est-ce qu'ils viennent, avec cette douleur insurmontable, envahissante, qui finit par prendre le pas sur tous les aspects positifs de leur vie. Ils arrivent à revenir de là, pour certains. Et du coup, en voyant le chemin qu'ils ont déjà parcouru, ils voient qu'ils peuvent encore aller vers autre chose, et vers autre chose qui sera, en général, forcément plus agréable que ce qu'ils ont vécu auparavant. Un des thèmes qui ressortait et qui m'a paru important, c'est le fait aussi que on parle beaucoup de l'ACT, hein, les thérapies d'acceptation et d'engagement. Ils évoquent le fait que l'acceptation, accepter d'être un douloureux chronique, ce n'est pas un renoncement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est douloureux chronique qu'on ne pourra plus jamais faire un truc fun dans sa vie. Mais l'acceptation, le fait de comprendre qu'on a des limitations, ça permet aussi de mieux les contrôler. Et la notion de voyage, vraiment qui est à la fois, elle est intéressante et aussi révoltante, parce qu'on se dit que les patients ne devraient absolument pas devoir subir ce voyage. qui forcément en perd certains.
À chaque étape, en fait, on pourrait raccourcir le voyage.
Le risque, c'est que plus le voyage est long, plus la probabilité d'avoir un accident en cours de route est importante. Le risque majeur, c'est de rester enfermé dans un cycle de douleurs chroniques et que le phénomène puisse s'emballer.
Du coup, cet article, en fait, n'a pas pour but de donner des données chiffrées. Il a pour but d'analyser ce voyage des patients douloureux chroniques et où ce qu'ils expliquent, c'est que du coup, on va démarrer par, en général, une forme d'errance avec une incompréhension et peut-être une période où on va subir la douleur en cherchant peut-être des solutions dans un axe assez étroit et assez fermé où on ne trouvera pas forcément des solutions globales, et que ceux qui vont mieux sont ceux qui ont pu bénéficier d'un accompagnement leur permettant en fait de reprendre en partie le contrôle sur la situation, avec déjà donc un premier point de bascule là, j'ai compris ma douleur, donc je sais ce que je peux faire ou non, et de remettre du temps de loisir, et après un deuxième point de bascule où, malgré la douleur, pouvoir être suffisamment empoweré, d'être suffisamment en pouvoir pour refaire des projets, c'est là où finalement on accélère un petit peu ce voyage vers le mieux, c'est ça ?
Exactement, il y a un paragraphe qui me semble résumer parfaitement comment on doit réussir à faire progresser nos patients, et je vais vous le lire. J'ai donné du sens à ma douleur. Ma douleur est réelle. Je comprends mieux ma douleur maintenant. Elle ne me fait plus peur. Elle n'est plus menaçante. J'ai moins peur, je suis moins anxieux. Je sens que je peux gérer. J'ai une forme de contrôle. Je comprends mon corps et la douleur. Et je commence un nouveau voyage. Je suis parti du chaos vers la compréhension et la gestion.
Et du coup, ça, c'est la synthèse et la conclusion de cette méta-ethnographie, qui est que ça devrait être, en fait, nos objectifs de prise en charge systématiquement quand un patient est douloureux, c'est de les amener vers ce type de pensée, en fait.
Leur conclusion à eux, c'est quatre orientations. Hein. Valider la douleur au travers d'une explication qui soit rationnelle et qui ait du sens pour les patients. Valider les patients par une écoute et aussi en validant leur parcours de soins. C'est ce qui est encore un petit peu difficile parfois. Mais effectivement, hein, quand les patients font des erreurs, c'est plutôt parce qu'ils ont mal été orientés plutôt qu'eux-mêmes ont fait des bêtises. Hein. Leur boulot, c'est pas de faire le nôtre. Le troisième aspect, c'est les encourager à se connecter avec ce qui fait du sens pour eux, ce qui est important, ce qui les constitue en tant que personnes, d'être gentils avec eux-mêmes, d'explorer de nouvelles possibilités pour pouvoir aller plus loin plus tard. Et enfin, le dernier aspect, c'est de faciliter le fait que ce soit un retour qui soit sécuritaire pour les patients.
Que la fin du voyage, en fait, se fasse dans une sensation de sécurité, en fait, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
On peut donner beaucoup d'explications aux patients. Effectivement, si on n'a pas réussi à donner aux patients ce sentiment de sécurité, c'est peut-être qu'on a raté un élément, qu'on n'a pas donné les outils de réassurance suffisants ou les éléments factuels qui lui auraient permis d'avoir cette conviction de sécurité.
Ce qui reste difficile, sachant que chaque professionnel est différent, chaque patient est différent, chacun va avoir des attentes différentes et une capacité à absorber des informations ou des connaissances différentes en fonction du moment, en fonction de l'heure. Je reparle souvent de cette dame qui m'avait dit « Pour bien soigner quelqu'un, il faut le connaître suffisamment pour savoir ce dont il a besoin. » Ce qui est difficile dans nos modèles actuels vu le peu de temps qu'on peut avoir pour ce type de prise en charge et pour prendre le temps de chercher à être sûr qu'on a bien compris la situation. Décidément, Vincent, encore un article qui flatte nos biais, hein, qui va dans le sens de la kinésithérapie qu'on aime et qu'on essaye de promouvoir sur le lapin. J'aimerais bien vous citer la conclusion de l'abstract qui dit que l'innovation qu'il propose, c'est de concevoir, alors healing si on veut le traduire tel que guérison, mais moi je garde cette idée d'aller mieux. Aller mieux, c'est un voyage en cours et dans la continuité, plus qu'une destination. C'est aller mieux qui est le voyage et le chemin. C'est un petit peu conceptuel dit comme ça, mais moi je trouve ça très touchant. Et toi, tu voulais rajouter, Vincent, une traduction que je trouve aussi pertinente.
Ouais, moi, je pensais à healing qui était peut-être ne plus vivre la douleur comme invalidante.
Et je suis assez d'accord avec ça parce que je pense qu'à partir du moment où on a compris une douleur et qu'on n'en a plus peur et qu'on peut l'utiliser, on peut la manipuler, on peut se retourner contre elle, si je puis dire, d'une certaine manière, on a déjà fait une bonne partie du chemin. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous met toutes les références sur le blog. N'hésitez pas à aller lire l'article qui a l'air passionnant. et on vous dit à très bientôt
sur le temps d'un lapin.